jusqu'à 15h. Vous écoutez Drainville PMO au réseau Cogeco.
Alors, où est-ce que nous en sommes, là, dans la lutte contre les grands, grands feux qui frappent la Californie? On va aller rejoindre sans plus tarder Loïc Piala, qui est correspondant de BFM TV et de Radio France à Los Angeles. Bonjour Loïc.
Bonjour.
D'abord, faites-nous un peu le portrait de où en est la situation et par la suite, parlez-nous des recherches, s'il vous plaît.
Très bien. Alors, d'abord, il faut bien comprendre qu'il y a deux incendies. Un premier au nord de Sacramento, c'est dans le nord de l'État, le Camp Fire, qui est l'incendie le plus grave. Et puis un autre, plus près de là où je me trouve, à Malibu, autour de Los Angeles, qui lui s'appelle le Woolsey Fire. Et donc, ces deux incendies ont commencé la semaine dernière, jeudi dernier, et ont fait en cumulé au moins 51 victimes. 48 seulement dans le Camp Fire, au nord de Sacramento, donc un bilan désastreux, surtout si on ajoute 8500 maisons détruites, la ville entière de Paradise au nord de Sacramento rayée de la carte. C'est ce qu'on appelle, c'est même déjà l'incendie le plus destructeur de la Californie. Il n'a pas forcément brûlé plus d'hectares que d'autres incendies, mais en termes de dégâts matériels et humains, jamais un incendie n'a été aussi destructeur. Et puis, celui qui est encore une fois plus près de là où je me trouve, le Woolsey Fire, lui, a brûlé aux côtés de Malibu et a détruit environ 350 structures, aurait fait 3 morts d'après les autorités. Et donc là, les autorités, les pompiers continuent d'avancer, de progresser dans leur lutte. Vous parliez des recherches. Les recherches, elles se situent donc dans le nord de la Californie parce qu'il y a au moins 130 personnes toujours portées disparues. Donc le bilan que je venais de vous dire de 48 morts pourrait augmenter dans les heures, dans les jours qui viennent. Ce serait, là encore une fois, le pire incendie jamais vu en Californie. Et ces recherches, comment elles se passent? Eh bien, 450 personnes sont mobilisées aujourd'hui avec une vingtaine de chiens pour chercher les cadavres, un peu comme si il y avait eu un tremblement de terre et qu'il fallait aller dans les décombres retrouver ces corps. Paradise, c'était une ville avec beaucoup de retraités, beaucoup de gens assez âgés qui n'ont pas forcément pu évacuer rapidement au moment de l'incendie, un incendie particulièrement rapide. Donc, une situation réellement, réellement catastrophique.
Mais Loïc, expliquez-moi, là, quand vous dites qu'ils utilisent les chiens pour trouver les victimes, là. Je veux dire, dans certains cas, il ne reste que des cendres, non?
Bah, c'est un peu le problème. C'est aussi pour ça qu'il y a, il y a toujours des traces de corps humains. Ils ont fait venir également des espèces de centres mobiles pour d'identification ADN, des morgues mobiles également. Donc, c'est vrai, pour les chiens, c'est difficile, mais il va falloir trouver peut-être un bout de tissu, des dents. Souvent, malheureusement, les dents sont les choses qui restent. Tout est tenté pour essayer de retrouver les corps. C'est aussi pour cela que ça prend autant de temps. Le feu a démarré jeudi. L'essentiel des victimes ont été tuées dans les premières heures de l'incendie. Là, ça fait une semaine. Et donc, tous les corps n'ont pas été retrouvés, justement, pour les conditions que vous venez de mentionner. C'est compliqué quand il ne reste effectivement que des cendres. Donc, aux pompiers de trouver, assister de ces chiens, des endroits où on sait qu'il y avait beaucoup de disparus, essayer de retrouver toute trace possible. Et cette opération pourrait durer effectivement très, très longtemps, en raison des difficultés que vous venez de mentionner.
Une dernière question, Loïc. Vous êtes allé sur le terrain, vous observez tout ça là, comme journaliste. Avez-vous le sentiment que les Californiens vont finir par en venir à bout, vont finir par reprendre le contrôle?
Vous parlez de ces deux incendies-là ou
ouais,
des incendies en
général? De ces deux-là et peut-être... Oui?
Très franchement, ces incendies-là, en tout cas dans le Nord, le feu n'est plus vraiment le problème. Maintenant, la priorité, c'est de retrouver ces corps pour que pour que les proches des victimes puissent faire leur deuil. Le feu n'inquiète plus vraiment les autorités. Il devient de plus en plus contenu. On est autour de presque 50% pour les deux incendies. Il faut toujours faire très attention au vent qui pourrait raviver les flammes. Mais la priorité dans le Nord, maintenant, vraiment, la préoccupation principale, elle est de retrouver les victimes. Quand les journalistes attendent le briefing quotidien des pompiers dans Camp Fire, ce n'est pas pour savoir combien d'hectares ont été brûlés, combien si les flammes ont continué à avancer, c'est vraiment pour savoir combien de corps ont été retrouvés, quel est le bilan actuel du nombre de décédés.
Très bien. Loïc Piala, correspondant pour BFM TV, c'est comme la chaîne, une des chaînes de nouvelles en France, chaîne de nouvelles continue, très bonne d'ailleurs. Vous travaillez également pour Radio France depuis Los Angeles. Merci.
Merci.
Alors, on continue parce que ça fait plusieurs jours qu'on essaie de trouver un des pilotes québécois, là, les pilotes de CL-415. Vous savez, on a une expertise, nous autres, les Québécois, dans la lutte contre les incendies de forêt. Et ça fait plusieurs années qu'on envoie des Québécois en Californie prêter main forte. Et là, on en a retrouvé un. Il s'appelle Jean-David Saint-Laurent. Il était là l'été dernier pour combattre les flammes autour de Napa puis de Sonoma. Il est assistant chef pilote au service aérien du gouvernement du Québec. Jean-David Saint-Laurent, bonjour.
Oui, bonjour. Merci de l'invitation.
Alors, vous êtes un pilote d'hydravion, hein, un CL-415?
Oui, un pilote d'avion citerne.
Et vous étiez là l'été passé. Racontez-nous en quoi c'est différent, pourquoi c'est un challenge qui est hors de l'ordinaire, là.
Oui, ben, d'abord, j'aimerais juste préciser que, oui, on combat les feux en Californie, mais ce qui se passe dans le coin de Paradise, qui est presque à 300 000 de nous, c'est assez distant. Alors, nous, l'accord qu'on a avec la province et le comté de Los Angeles, c'est vraiment pour protéger le comté même de Los Angeles, qui est à peu près 4000 milles carrés. Alors, le territoire qu'on protège a à peu près un rayon de 50 kilomètres. Et c'est vraiment concentré secteur Los Angeles en périphérie rapprochée, Malibu et Pacific Palisades.
Vous êtes là, dans le fond, vous, pour protéger la ville.
Là. Oui, ben en fait, la ville elle-même, il y a beaucoup de casernes de pompiers, donc c'est pavé. Il n'y a pas tellement de végétation à brûler, mais c'est en périphérie. Aussitôt qu'on s'éloigne un petit peu de LAX de Los Angeles, là, on retrouve du combustible, de la broussaille. Et puis, oui, c'est la raison d'être de notre présence. Par contre, c'est important de dire qu'on n'est pas seul. On est en partenariat avec LA County Fire Department, ah oui, qui ont des effectifs, des hélicoptères. Et on est un outil de plus qui se joint à eux dans leur équipe. Et on est en partenariat depuis 25 ans.
Alors, ouais, dites-nous le défi particulier de combattre ces feux en Californie.
Ce sont les conditions. Ben, il y a des conditions de vent qui sont très, très fortes. Je parlerai tantôt du Santa Ana, le terrain qui est accidenté avec de nombreux escarpements. Mais ce qu'on fait là-bas, c'est ni plus ni moins ce qu'on sait faire chez nous, ce qu'on sait faire ici dans la province du Québec ou quand on va aider en Colombie-Britannique. C'est cette expertise-là qu'on exporte là-bas. Notre savoir-faire, on l'emmène là-bas. Alors oui, c'est des conditions qui sont particulières, mais nos équipages qui y vont année après année, saison après saison, connaissent bien le territoire puis sont habitués de composer avec ces éléments-là. Entre autres, je parlais du vent, il y a le Santa Ana. C'est un phénomène météorologique. Il y a une grosse haute pression qui va se bâtir dans le coin de l'Idaho puis l'Utah. Et puis, les vents sont comme bloqués par une chaîne de montagnes qui est le Sierra Nevada. Mm-hmm. Et puis, sont contraints, sont forcés de faire leur passage dans des canyons étroits. Et puis, ça passe dans le désert de Mojave. Alors, c'est de l'air très, très sec. Et puis, ça descend les montagnes. En descendant les montagnes, il y a un phénomène de compression. Donc, la chaleur... encore une fois, augmente. Alors, c'est des vents chauds, vraiment secs, qui vont assécher la végétation. Et puis, je ne dis pas ce qui est arrivé nécessairement dans le comté de Ventura, le comté voisin, mais tu vois, il faut se mettre en tête que ces vents-là, qui sont très, très forts, on parle de 40 000, 60 000 à l'heure en rafale, peuvent des fois briser une ligne électrique durant la nuit. Et c'est ce qui craint le plus, c'est que ça se produise durant la nuit. Et puis, à ce moment-là, avec des vents aussi puissants, la progression du feu, ça se fait d'une façon là vraiment très, très, très dynamique. Et puis, par contre, la force de l'avion citerne, la force de nos avions citernes ici au Québec, c'est qu'ils sont très rapides sur l'attaque initiale. Et puis, dès qu'on va décoller de l'aéroport où on est basé, c'est un aéroport de Van Nuys où, stratégiquement, on est bien positionné pour couvrir le comté. Mm-hmm. On a déjà une charge d'eau à bord. Et puis, en à peu près moins de 15 minutes, on peut atteindre ce feu-là. Et l'astuce, c'est d'intervenir dès le début, quand le feu est petit. Quand le feu se voit de l'espace, quand il se voit de très, très haut, les éléments sont forts, le vent est fort, ça devient très difficile de combattre.
Le CL-415, là, ça représente combien, en termes de chargement, de cargaison d'eau, ça représente combien d'hélicoptères? Là? Les fameux hélicoptères qu'on voit dans les images à la télé, c'est comme une espèce de poche d'eau là, qui lâche au-dessus du feu. Vous, le CL-415, ça représente combien de ces poches d'eau en quantité?
Ben, je dirais qu'ils ont un hélicoptère qui appelle le Sky Crane. Lui, c'est vraiment un hélicoptère heavy, là, un hélicoptère lourd. Lui, il peut emmener presque autant d'eau que nos deux citernes.
Okay.
Par contre, il est moins rapide que nous. Et puis, ils ont toute une gamme d'hélicoptères beaucoup plus légers, moyens, qui, eux autres, vont transporter moins d'eau. Vraiment, la force du citerne, c'est sa rapidité. Puis, c'est le fait que il n'y a pas besoin de retourner à l'aéroport pour se charger. Alors, tout ce qu'il y a de points d'eau, il y a quelques points d'eau dans le comté de Los Angeles, Castaic, Santa Fe Dam.
C'est quoi? C'est des lacs, ça? C'est des lacs?
C'est des réservoirs.
Des réservoirs, OK. Vous n'allez pas vous charger parfois dans l'océan?
Tout à fait, aussi. Mais ça va dépendre géographiquement où se trouve le feu.
Ouais.
Alors, il y a eu des journées où des fois, l'océan, c'est pas l'endroit où aller, c'est pas accueillant, donc il faut aller chercher l'eau un petit peu plus loin. Et dans ce qui a eu lieu, ce qui a eu cours dans les dernières journées, ben oui, on a nos équipages qui ont pu aller à l'océan. La force encore de l'avion, c'est d'être capable de se ravitailler en eau rapidement et de retourner au feu et de faire des turnarounds très, très rapides pour finalement, en termes de sur l'horloge, être capable de mettre une grande quantité d'eau sur le feu.
Est-ce que vous pouvez dire là qu'il y a des cas là où vous avez carrément sauvé la situation grâce aux deux CL-415?
Votre question est un petit peu difficile à répondre, puisque oui, il y a des fois l'effet était vraiment bénéfique, mais on ne peut jamais présumer de ce qui ne s'est pas passé.
Ouais.
Mais des missions intéressantes où on part avec deux avions, puis en moins de 6-8 minutes, on est déjà sur place, et que d'une façon très rapide, l'eau est proche. Puis qu'en trois drops, chaque avion, en trois largages, chaque avion, tout est terminé. On ferme les livres, on n'en parle plus. Ben ça, c'est toute la raison d'être de l'avion. Et ça, évidemment, on n'en parlera pas le soir aux nouvelles ou dans les médias. Mais là, c'est le but d'avoir cet avion-là sur place.
Est-ce que, quand on regarde l'ampleur des feux, là,
oui.
On se dit peut-être que ça en prendrait plus que deux. CL-415, est-ce qu'on serait en mesure de leur en fournir davantage? Est-ce qu'on pourrait leur donner plus d'appui? Parce que c'est assez épeurant, vous l'admettrez avec moi, là, quand on regarde les images, puis on regarde le nombre de décès, là, ils sont rendus, c'est quoi, 59 victimes, puis il y en a combien là, qui sont portés disparus? Il y aurait besoin de nous autres, peut-être, pour plus que deux appareils?
On n'a pas reçu demande juste dans cet effet-là. Par contre, si on recule un petit peu à rebours, il y a des années où le comté de Los Angeles a demandé des deux appareils supplémentaires. On est déjà monté à 4 appareils. Ça revient à leur décision, à eux.
En terminant, là, est-ce que ça fait de vous un meilleur pilote pour combattre les feux chez nous que de participer à des opérations comme celle-là?
On apprend toujours dans ce métier-là. On est toujours en transformation. Puis, mais comme je disais tantôt, ce qu'on fait là-bas, c'est pas de l'improvisation. C'est notre savoir-faire qu'on fait chez nous. C'est l'expertise qui a été transmise par nos pilotes seniors. Parce que voler un avion citerne, c'est quelque chose de bien singulier, de bien particulier. Ça, c'est un long parcours. Et puis, ça prend plusieurs saisons à former un pilote d'avion citerne. Puis, je dirais même toute une vie. On arrive là-bas déjà bien formé avec notre expertise.
Est-ce que c'est dangereux, en terminant, le travail que vous faites? Est-ce que c'est dangereux? Ou quel est le principal danger, mettons?
Écoutez, la sécurité, c'est au premier plan. Sécurité des équipages, on a des... On est des pères de famille et puis il y a l'équipement. Alors, nos avions, on les protège. Le calcul du risque, tout est bien calculé. On a un appareil qui a vraiment de grandes capacités. Quand on la voit travailler sur les médias, on voit que c'est un appareil qui se débrouille bien. Elle a le design de l'aile, un profil d'aile très, très épais. C'est plus un tracteur qu'une voiture de course. Alors, pour travailler près du relief, c'est un appareil qui a de très grandes capacités, des surfaces vraiment immense de contrôle qui fait en sorte que l'avion répond bien. Alors, c'est sa spécialité, elle a été designée pour ça. Et puis, pour le reste, tout est traité là avec la sécurité au premier plan.
Très bien. Jean-David Saint-Laurent, assistant chef pilote donc de CL-415 au service aérien du gouvernement du Québec. Merci.
Merci à vous. Bonne journée.
Après la pause, la politique. Et vous avez vu la déclaration de François Legault? Je sens que mes deux compères vont avoir plein de choses à dire à propos de Sico Sico dans un instant.